Bienvenue à Château-Giron, petite cité de caractère en Ille-et-Vilaine, située à quelques encablures de Rennes. Vous allez débuter la visite de Château-Giron et ce guide audio est là pour vous accompagner et vous présenter les aspects remarquables du patrimoine de cette ville. Château-Giron est une petite cité de caractère, c'est donc une commune qui s'engage à mener une politique active de sauvegarde, d'entretien et de restauration de son patrimoine. Je vous propose de commencer par le patrimoine le plus remarquable de Château-Giron, à savoir son château. Le départ de la visite commence dans la cour de celui-ci. La naissance de la ville de Château-Giron et surtout de son château commence par un mariage entre la sœur du duc de Normandie, Avoise, et le duc de Bretagne, Geoffroy Ier. Cette princesse de Normandie est arrivée avec toute sa cour en Bretagne et parmi celles-ci se trouvait le chevalier Anquetil. Celui-ci deviendra vassal du duc de Bretagne et obtiendra des terres ici même en 1008 d'Alain III, fils de Geoffroy Ier et Avoise de Normandie. Il y fera construire une forteresse en bois qui porte le nom de motte féodale. Il n'en reste plus de traces aujourd'hui. Le château Anquetil est remplacé rapidement par celui de son fils prénommé Giron. Celui-ci va reconstruire le château en pierre et il donnera au site le nom de Château Giron. Le château de Château Giron fait partie des illustres marches de Bretagne, ces forteresses qui forment des lignes protectrices devant la ville de Rennes, capitale du duché de Bretagne, à cette époque indépendante. Château-Giron fait partie de la deuxième ligne de protection, avec le château du Grand Fougeray par exemple. La première ligne est occupée notamment par les châteaux de Fougères, Vitré, Clisson. La situation du château dispose d'un cadre naturel propice à une bonne défense. Le site est en effet construit sur un promontoire rocheux et est protégé en contrebas par la rivière de l'Yenne qui fait office de barrière naturelle. De la cour du château, vous pouvez observer l'allure de celui-ci aujourd'hui. Nous retrouvons le corps de logis qui est dans un état remanié du XVIIIe siècle et qui abrite aujourd'hui la mairie de Château-Giron. À sa droite se trouve la chapelle du château. C'est l'élément le plus ancien qui perdure. Elle fut construite au XIIe siècle. D'abord chapelle privée pour le seigneur et sa famille, elle se verra transformée en chapelle paroissiale au XVIe siècle pour accueillir la population. En 1927, elle évoluera en salle de cinéma. Celui-ci restera en activité jusqu'en 1978. Aujourd'hui, après 6 années de restauration, elle abrite le centre d'art Les Trois Chats. Le château actuel possède 4 tours. Dans le prolongement de la chapelle se trouve la tour de l'horloge, construite au XIVe siècle. De l'autre côté du pont se trouve le donjon, construit au XIIIe siècle. Sur le flanc nord, accolé au logis, vous retrouvez la tour du cardinal, construite au XIVe siècle également. Et une quatrième tour se positionne derrière le corps de logis, côté ouest, nous en reparlerons tout à l'heure. Sur toute la période du Moyen-Âge, le château va évoluer, il va s'agrandir, se fortifier, le système défensif sera constamment amélioré. Autrefois, un pont-levis protégeait l'accès du château, il sera détruit au XVIIIe siècle. Juste en dessous se trouvaient les douves, qui étaient au Moyen-Âge remplies d'eau. Ces douves étaient alimentées par l'étang, qui se trouvait alors au pied du donjon. Au XVe siècle, le château a l'allure d'un château fort. À cette époque, un mur traversait la cour du château, allant de la tour de l'horloge à la tour du cardinal. Vous pouvez observer les arrachements de pierre au niveau de la tour de l'horloge, traces de ce mur aujourd'hui disparu. Le donjon était donc isolé du château et présentait son propre système défensif. Approchez-vous du donjon quelques instants. Le donjon, haut de 38 mètres, est la tour qui possède la meilleure défense dans un château fort. Celui-ci était entouré de douves remplies d'eau et de fossés secs. Sa position était voulue comme imprenable. L'usage des engins de siège comme les béliers, qui nécessitent l'accès aux murs d'enceinte, était rendu difficile, voire impossible, pour des fortifications entourées de douves et de fossés. Isolé du reste du château, on ne pouvait y accéder que par un pont-levis installé au deuxième niveau. Après le Moyen-Âge, le château va peu à peu perdre sa fonction défensive. La tour de l'horloge, véritable tour de défense au Moyen-Âge, observez les archères qui habillent la tour, se voit accueillir au XVIIe siècle un mécanisme d'horlogerie et une cloche qui prend place dans un campanile tout en haut de la tour. Cette cloche, de plus de 500 kg, est installée en 1666. Elle prendra le nom d'Henriette en l'honneur d'Henri de Cossé-Brissac, seigneur de Château-Giron, qui en a fait don. Outre ce fait marquant, le XVIIe siècle est une période d'abandon pour le château. Il finira par être vendu en 1701 à la famille Leprêtre de Lézonnet, une famille de riches parlementaires rennais. Ils vont garder le château jusqu'à la Révolution, et en 1795, le château est vendu à un commerçant rennais. Il sera finalement donné au Conseil Général en 1930. Empruntez maintenant la promenade du Puy Saint-Julien, promenade se trouvant derrière la chapelle. Dirigez-vous vers le passage existant entre la tour de l'horloge et la chapelle du château. Nous nous retrouvons maintenant derrière la chapelle. Au Moyen-Âge, ce mur de la chapelle était un mur aveugle. Il constituait un rempart du château. C'est au XVIe siècle, lorsque cette chapelle devient paroissiale, que sera percée une entrée dans ce mur. L'accès à la chapelle se faisait via un pont-levis, car sous vos pieds se tenait un fossé sec. Ce fossé, étroit, constituait le point faible du château. Cette percée dans le mur de la chapelle va malheureusement permettre aux envahisseurs de pénétrer dans le château assez facilement. Ce fut notamment le cas pendant les guerres de religion. Les troupes de la Ligue dirigées par le duc de Mercœur vont attaquer Château-Giron, bastion du protestantisme, et vont parvenir à assiéger le château en passant par la chapelle. Cette promenade du Puy Saint-Julien met également en évidence le caractère médiéval des maisons qui l'allongent. Les maisons sont construites sur de très étroits et profonds parcellaires, typiques de cette époque. Les maisons, étroites, avaient pignon sur rue à l'avant, abritant souvent une boutique, et en arrière se développait l'habitat des propriétaires. Cette partie de la ville n'a presque pas subi de modifications et est donc fidèle à l'agencement du Moyen-Âge. Si vous continuez le long de cette promenade, en empruntant les escaliers, vous découvrirez la dernière tour du château encore debout, la tour du Guet. Cette tour du XVe siècle défendait le côté ouest du château. Elle témoigne notamment de son adaptation à l'artillerie, on y retrouve des archères canonnières. Un chemin de ronde sur Machicoulis existait depuis cette tour jusqu'à une autre tour aujourd'hui disparue, située au niveau de la terrasse à la place des arcades. Nous arrivons rue Dienne, qui tient son nom de la rivière qui court au nord de Château-Giron. C'est aussi une rue médiévale, l'une des plus anciennes, avec la rue de la Madeleine que nous verrons un peu plus tard. Contrairement à un certain nombre de villes médiévales, la ville de Château-Giron n'a jamais eu de rempart. La rivière de Lienne constituait une barrière défensive naturelle et jouait également le rôle de frontière. Descendez la rue Dienne afin de faire le tour complet du château. Tout en bas de la rue, vous pouvez observer un des plus beaux points de vue. Ce point de vue met en évidence le double caractère du château. Nous retrouvons les marques du passé médiéval, avec le donjon percé d'archères, ou encore avec le glacis situé à la base de la muraille. Le glacis est cette pente inclinée empêchant toute tentative de sape, et empêchant également aux assaillants de se mettre à l'abri des tirs des soldats présents sur le chemin de ronde en se collant contre la paroi. Mais on retrouve aussi les marques d'un passé plus récent, avec le pavillon carré et sa terrasse, des changements que l'on doit au XVIIIe siècle et qui donnent des allures de demeure de plaisance au château. Poursuivez maintenant sur le boulevard du château en partant du côté opposé à celui-ci. Longez la rivière en direction du lavoir Saint-Nicolas. descendez les marches pour observer d'un peu plus près. Ce lavoir est assez récent puisqu'il date de l'entre-deux-guerres. Les lavoirs se développent surtout au XIXe siècle, uniquement réservés aux femmes, c'est un important lieu d'échanges sociaux. La présence des hommes était interdite. À proximité de ce lavoir se trouve une meule à grains. Empruntez le petit chemin qui continue de longer la rivière de l'Yenne. Vous longez également une bâtisse qui n'est autre que l'hôpital Saint-Nicolas. Cet hôpital daterait du XIIIe siècle, il est créé à la demande des seigneurs de Châteaugiron. Comme beaucoup, il est dédié à Saint-Nicolas, un saint très populaire en Bretagne au Moyen-Âge. C'est le saint patron des marins puis des voyageurs, il est aussi celui des enfants et des filles à marier. Son implantation géographique est caractéristique des hôpitaux médiévaux, en dehors du bourg et à proximité de la rivière, par mesure d'hygiène. Cet hôpital accueillait les malades, les pauvres, les voyageurs, les pèlerins, les enfants trouvés, les femmes enceintes. Il était constitué d'une chapelle, d'une salle pour accueillir les malades et d'une aumônerie. Après le Moyen-Âge, l'hôpital se transforme en prieuré. Quelques éléments témoignent de restauration, comme la porte de la chapelle, qui a complètement été refaite lors de travaux en 1888 avec un nouveau matériau, la brique. La bâtisse abrite depuis 1984 l'atelier de sculpture de Claudine Brussorio. Vous allez maintenant pouvoir remonter la rue du Général de Gaulle en direction de la rue de la Madeleine. De la rue de la Madeleine, prenez sur votre droite, rue Saulnerie, et dirigez-vous jusqu'au carrefour des trois rues, rue Saulnerie, rue Rouerie et rue Sainte-Barbe. Ces trois rues évoquent le passé de Châteaugiron, passé que l'on retrouve à travers leur nom. La rue Rouerie rappelle l'important passé toilier de la ville. Les fibres du lin et du chanvre étaient obtenues par la pratique du rouissage. L'action de rouire consistait à éliminer des plantes, la pectine, afin d'en extraire les fibres par immersion dans l'eau. À Châteaugiron, les fibres récoltées permettaient ensuite la fabrication de toiles de chanvre destinées à la marine royale ou à la marine marchande. Ces toiles sont appelées les noyales à partir du XVIIe siècle. Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, on confectionnait et vendait ces toiles à Châteaugiron. Plus généralement, la Bretagne est une région où la production, la transformation et le commerce du chanvre et du lin furent très florissants du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. La rue Sainte-Barbe tire son nom de la maison qui se trouve au numéro 13, à l'angle de la rue Sainte-Barbe et de la rue Saulnerie, et qui offre à la vue une statue de Sainte-Barbe. La sculpture est en bois, autrefois polychrome. Sainte-Barbe, martyre chrétienne, y est présentée avec ses attributs traditionnels, la couronne, la palme du martyr et un calice. À côté d'elle est sculptée une tour à trois fenêtres, symbole de la Trinité. C'est dans cette tour qu'elle fut séquestrée par son père, qui voulait la protéger du prosélytisme chrétien. Mais au retour d'un voyage, son père apprend qu'elle s'est convertie et furieux y met le feu à la tour. Sainte-Barbe réussit à s'enfuir mais est trahie par un berger. Condamnée au supplice, elle refuse d'abjurer la foi chrétienne et est finalement décapitée par son père, qui est alors frappé par la foudre. Sainte-Barbe est invoquée contre la foudre, elle est également la sainte patronne, le modèle et la protectrice des artificiers et des pompiers. Les propriétaires de la bâtisse ont placé leur maison sous sa protection à la suite d'un incendie. La rue Saulnerie évoque, elle, le lieu de production du sel et peut aussi être le lieu où on en vendait. Châteaugiron a pu posséder un tel lieu de vente. Au Moyen-Âge, le sel était l'élément le plus important du commerce et les Bretons avaient le privilège d'être exemptés de l'impôt sur le sel, la gabelle, un privilège qui dura même après le rattachement de la Bretagne au Royaume de France en 1532. Pour poursuivre la visite, revenez sur vos pas vers la rue de la Madeleine. La rue de la Madeleine est une rue typique du Moyen-Âge, notamment soulignée par la présence d'un parcellaire profond et étroit. Ce sont des parcelles dites en lanières. L'ouverture sur la rue étant réduite, l'utilisation du pan de bois sera favorisée, la façade ne nécessitant pas de grande portée. Une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine a été instaurée depuis 2014 à Châteaugiron. On dénombre une cinquantaine de maisons à pan de bois sur le territoire. Certaines restent encore à découvrir puisqu'elles sont toujours recouvertes d'un enduit. Le principe d'enduire les façades date de l'édit d'Orléans de 1606, obligeant les propriétaires à recouvrir les pans de bois structurels d'un enduit pour protéger les immeubles des risques d'incendie. Cette obligation fait que l'on va peu à peu arrêter les façades à pans de bois structurels, perdant leur intérêt décoratif puisque cachées par l'enduit. Arrêtez-vous devant le numéro 35 de la rue de la Madeleine. Cette bâtisse est l'une des plus anciennes maisons de Châteaugiron. Elle date de la fin du XVe siècle. La maison, sur deux niveaux, est mise en avant par son encorbellement massif, qui est cette partie saillante faisant le lien entre les deux étages. Celui-ci participe à une logique structurelle de l'édifice, il améliore la portée des planchers et la stabilité des bâtiments. Les encorbellements étaient préparés l'hiver par les charpentiers qui les posaient ensuite pendant les beaux jours. Un étage se montait en une journée. Au premier niveau, observez les deux blasons. Celui de droite comporte une fleur de liste et une hermine qui est une référence au mariage d'Anne de Bretagne et Charles VIII en 1491. Cette information est intéressante car elle permet notamment de dater cette maison à la fin du XVe siècle. Sur ce même blason, on retrouve aussi la lettre A à l'envers et la lettre M. Ce sont les initiales de l'Ave Maria, une référence à la Vierge Marie. Sur le blason de gauche se trouve l'abréviation imparfaite en grec du monogramme du Christ, IHS. Ce dessin est très stylisé, la lettre S fait d'ailleurs penser à un fil. Cette maison appartenait probablement à un marchand de toile de chanvre, une activité florissante sur le territoire. La présence de marchands est attestée dès la fin du XVe siècle à Châteaugiron. Ce blason rend bien compte de l'activité commerciale principale de la ville à cette époque. Vous pouvez maintenant remonter la rue de la Madeleine. Observez les différentes maisons à pans de bois, remarquez également les différentes façons de disposer ces pans de bois. En croisillon, en croix, en arête de poisson. Arrêtez-vous au numéro 28 de la rue de la Madeleine. Cette maison date du début du XVIe siècle. Observez l'écu sculpté, coloré cette fois-ci et bipartite. Sur sa partie droite se retrouve l'abréviation de l'Ave Maria et sur la partie gauche se retrouve le monogramme du Christ, IHS. C'est la même marque de marchand de toile que sur la précédente maison. Il s'agissait probablement d'un groupe de marchands très influent, peut-être une confrérie. Cette marque a même été retrouvée jusque dans le Finistère. Cette maison nous en dit aussi un peu plus sur l'organisation des demeures au Moyen-Âge. Vous avez une lucarne tout en haut, le grenier était donc éclairé, ce qui signifie que l'on s'en servait. Endroit sec et bien ventilé, on pouvait y entreposer des toiles, mais aussi des céréales. Redescendez la rue pour emprunter la rue Francis Guéraud sur votre gauche. Vous arrivez place des Gâtes. Le nom de cette place provient du vieux français Gast, qui signifiait terrain vague, désert. Sur ce terrain vague, au Moyen-Âge, se tenaient les foires annuelles et le marché. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, le jeudi matin. Sur cette place sera construite entre 1862 et 1865 l'église actuelle de Châteaugiron. Aristide Tourneux, originaire de la ville, en est l'architecte. L'édifice est dans un style néo-gothique. Pour des raisons financières, le clocher sera réalisé plus tard, en 1912. Il possède une galerie ouverte, cantonnée de quatre clochetons et d'une flèche. Le curé de la paroisse, nom dénué d'humour, avait fait sculpter quatre chats aux angles. Il voulait donner des chats au giron, pour Châteaugiron, le giron de l'église étant la communauté de l'église. Pour la petite histoire, ce clocher va s'écrouler en 1998 suite à une mini-tornade qui toucha le territoire. Il sera reconstruit à l'identique en 2000. Empruntez maintenant la rue nationale, en direction de la médiathèque Les Halles. L'office de tourisme se trouve dans cette rue, n'hésitez pas à passer nous voir. Vous êtes maintenant devant la médiathèque Les Halles. Sur cette place, autrefois, s'élevait une chapelle dédiée à la Sainte Trinité. En 1805, des sœurs originaires de la ville vont fonder dans cette chapelle une communauté dédiée à l'instruction des jeunes filles. Ce sera le couvent des Ursulines. En 1853, devant l'affluence grandissante des élèves, celles-ci doivent quitter leur local pour un immeuble plus spacieux dans l'ancien prieuré Sainte-Croix, plus au sud. En 1857, le maire de Châteaugiron fait état de l'urgence de construire des halles pour protéger le commerce des toiles de chanvre de la pluie, car les toiles se vendaient dans la rue. La ville rachète alors le couvent des Ursulines, le rase et y bâtit des halles. L'architecte est aussi Aristide Tourneux. Il propose cette fois-ci un style néoclassique où la symétrie règne. Le premier niveau des halles était destiné à la vente des toiles durant le marché hebdomadaire et les foires annuelles. Surmonté de greniers, il y était entreposé des céréales. À partir du milieu du 19e siècle, on assiste au déclin de l'industrie toilière et au début du 20e siècle, il ne reste plus un seul métier à tisser dans la commune. La navigation à vapeur tend à supprimer les navires à voile et les fabricants de toiles n'arrivent plus à vendre leurs produits à des prix rémunérateurs. Le travail de la toile est abandonné et les halles sont délaissées. En 1984, des travaux de restauration sont entrepris pour faire des halles un centre culturel. Puis, quelques années plus tard, le lieu accueillera la médiathèque de Châteaugiron. Prenez la rue de la Trinité pour observer les halles de l'autre côté. Vous pourrez noter que les deux pignons sont identiques. Redescendez ensuite la rue de la Poterie en direction du château. Sur votre droite, arrêtez-vous quelques instants au numéro 2 du boulevard Pierre et Julien Gourdel. Il s'agit de la maison de la Lauriette. Elle tient son nom du terme « auré » qui signifiait l'entrée de la ville. Cette maison date du XVIe siècle, mais observez la diversité des matériaux qui la composent. La façade principale est à pans de bois, celle-ci s'oppose à la façade du mur pignon en pierre et reprise à l'époque moderne. La brique des ouvertures et le fer forgé des balcons illustrent ces reprises modernes. Tous ces matériaux lui confèrent un aspect assez charmant, l'auberge est d'ailleurs un bâtiment classé. Vous êtes ici boulevard Pierre et Julien Gourdel. Ce boulevard a été percé pour le passage du tramway en 1894, qui reliait Rennes à la Guerche en passant par Châteaugiron. L'arrêt se trouvait parking des Douves. Ce petit train ne dépassait pas les 35 km/h. Il souffrait beaucoup dans les montées. Parfois, les voyageurs étaient obligés de descendre pour que le tramway puisse avancer. D'ailleurs, le sigle TIV, Transport d'Ille-et-Vilaine, est vite détourné en transport irrégulier des voyageurs. En 1944, il est bombardé par les Américains qui bombardent toute structure pouvant apporter de l'aide aux Allemands et notamment les trains. Le train de Châteaugiron sera complètement arrêté en 1948. Cette visite commentée se termine ici. Vous pouvez poursuivre votre exploration de Châteaugiron en flânant dans la rue de la Madeleine et les rues et ruelles aux alentours et découvrir les charmants commerces du bourg. Toute l'équipe de l'Office de tourisme du pays de Châteaugiron vous souhaite un excellent séjour sur notre territoire.